7h48, Léa Salamé, votre invitée ce matin, est photographe franco-brésilien.
Bonjour à vous, Sebastião Salgado, et merci d'être avec nous ce matin. Vous avez fui la dictature dans votre pays natal, le Brésil, à la fin des années 60, pour venir en France. Quand vous voyez que 50 ans plus tard, il y a au Brésil une nostalgie de la dictature, le besoin d'un gouvernement militarisé, d'un homme fort, vous ressentez quoi? Vous vous dites, les Brésiliens sont devenus fous, ou c'est moi, Sebastião Salgado, c'est moi qui n'ai rien compris?
Non, je crois que c'est le Brésil qui est devenu fou. Ça a devenu fou pas d'un seul coup comme ça. Le Brésil commence à devenir fou depuis pas mal de temps, n'est-ce pas? Dès le moment qu'on a destitué un président d'une manière complètement folle, c'était pratiquement un coup d'État qu'on enlève un président démocratiquement élu.
Dilma Rousseff,
pour mettre en place une composante complètement corrompue, complètement étrange. À partir de ce moment, on a commencé à perdre totalement le contrôle du pays. Le pays est devenu très dur, très violent. Et on met en prison celui qui pourrait être élu directement, presque au premier tour, que c'était le président, ex-président Lula, par corruption. Sans preuve, Lula c'était pratiquement un prisonnier politique, mais son gouvernement, ce n'est pas aussi pur que ça. Il y a eu énormément de corruption dans les gouvernements de PT, n'est-ce pas? Pour gouverner, ils ont acheté énormément d'appui politique. Et ça, ça a retourné contre ce qu'on pourrait appeler les forces démocratiques. Et donc, ce monsieur est arrivé au pouvoir.
Ce monsieur, donc jours, Jair Bolsonaro.
Monsieur Bolsonaro. Quelques jours avant, il avait un taux de rejection tellement énorme, il s'est rabattu pour tous les autres candidats. Et d'un seul coup, il est élu avec une majorité écrasante.
C'est vrai qu'il faut lui reconnaître ça, Bolsonaro, c'est que c'était un des rares. Vous avez parlé du parti de Lula et des gens qui entouraient le gouvernement de Lula. C'est un des rares Bolsonaro qui n'était pas mêlé dans cet immense scandale Petrobras de corruption.
Et voilà, parce que tous les autres partis, même les partis de droite, de centre-droite, de gauche, de centre-gauche, ils étaient tous mêlés là-dedans.
Voilà.
Donc, il a eu un choix de Brésiliens. Et, qui sait, d'un changement. Mais pas tous les Brésiliens non plus. Il était élu avec une énorme majorité. Il a eu 55 millions de voix quand les candidats de gauche, Fernando Haddad, a eu 44 millions. Mais il a eu quand même une variable très intéressante dans cette élection, c'est qu'il y a énormément de gens qui ne sont pas venus voter, ou des voix nulles, ou des voix blancs. On a eu à peu près 42 millions de Brésiliens dans un pays où les voix sont obligatoires qui n'ont pas voté, qui n'ont pas venu. Donc, on est à peu près, il a eu 55 millions de voix, mais il y a plus de 87 millions de Brésiliens qui n'ont pas voté en lui.
Oui.
La majorité n'a pas voté en lui.
On se rassure comme on peut dans ces cas-là, mais il a été quand même élu avec
très
une...
bien élu, absolument.
Voilà, très bien élu. On découvre à présent les visages de ceux qui devraient former son gouvernement. Il va annoncer aujourd'hui l'équipe gouvernementale. Il confirme le retour des militaires au pouvoir avec un gouvernement composé de 4 ou 5 généraux. Le fameux juge anticorruption Sergio Moro, celui qui s'est acharné contre Lula, qui sera donc à la justice. Un ultra libéral à l'économie. Qu'est-ce que vous pensez de cette équipe?
D'abord, ce n'est pas vraiment des militaires. On se trompe. Les militaires, ce sont ceux qui ont les affaires militaires en main. Les généraux modernes d'aujourd'hui, ils ne sont pas au gouvernement. L'armée, elle était complètement neutre dans ces procès d'élection au Brésil. Ce qu'il y a dans les gouvernements, c'est des vieux généraux à la retraite, beaucoup avec une certaine identification avec les coups militaires de 64, mais ce n'est pas l'armée, c'est des vieux militaires.
Donc vous n'avez pas l'impression que c'est le retour de la dictature militaire au Brésil, c'est ça que vous nous dites?
Non, ce n'est pas une dictature, pas du tout, loin de là.
C'était Bolsonaro, ce n'est pas une dictature.
Bolsonaro, ce n'est pas une dictature. Le Brésil a toutes les institutions d'un pays démocrate. Tout ce qu'il pense faire au Brésil, il faut être approuvé par des chambres où il n'a pas de majorité, où il faut composer. Dire, c'est une chose, faire, c'est une autre, très très différent.
Donc vous attendez du rôle des contre-pouvoirs d'empêcher certaines choses. Deux, trois choses qui semblent se dessiner aussi. Il avait annoncé pendant la campagne qu'il voulait supprimer le ministère de l'écologie et le fusionner avec le ministère de l'agriculture. On a appris il y a 3 jours qu'il renonçait à ça. Il y aura un ministère de l'agriculture et un ministère de l'écologie. C'est C'est-à-dire qu'il se plie au principe de réalité, vous pensez? Qu'est-ce qui...
Vous savez, il est déjà, c'est la deuxième fois qu'il revient en arrière à propos du ministère de l'Environnement. Il a déjà dit, il y a à peu près, juste après l'élection, qu'il n'allait pas les faire, après il allait les faire, allait les fusionner. Et vous savez, là, ça montre une énorme pression à l'intérieur des affaires au Brésil. Le Brésil est devenu le plus grand producteur agricole du monde. Le Brésil exporte énormément de viande, de soja, de café, de tout. Et donc, l'agro-affaire au Brésil, l'agro-business, il est énorme. Et il dépend des marchés extérieurs. Éliminer un ministère d'environnement, détruire une partie de l'Amazonie, il y a des effets énormes, des contre-effets énormes sur l'économie. Il va y avoir des mouvements de boycott planétaire contre.
Donc vous dites que c'est le rôle des lobbies de l'agroalimentaire qui lui disent il ne faut pas que tu fusionnes, parce que sinon c'est nous qui allons payer, on ne va plus importer.
La grande pression, ça vient des agro-affaires qui dit non, ne fusionnons pas, parce que ça va être compliqué pour nous.
Vous êtes arrivé à l'écologie sur le tard, Sébastien Salgado, dans les années 90, quand vous êtes revenu dans votre pays, dans le sud du Brésil, et que vous avez vu un paysage de dévastation écologique, il n'y avait plus rien. Vous avez décidé, avec votre femme, de créer une ONG et de replanter des arbres. Vous avez déjà planté 2,5 millions d'arbres au Brésil. Et vous disiez récemment, il faut qu'on en plante 150 millions dans les prochaines années. Est-ce que vous pensez qu'avec Bolsonaro au pouvoir, ça va ralentir ce mouvement de reforestation?
Je ne crois pas. Je crois que ce mouvement est un peu indépendant des gouvernements. Vous savez, il y a un besoin local. On plantera 150 millions d'arbres pour refaire toutes les sources d'eau d'un énorme bassin, notre bassin, au Brésil. Si on ne fait pas, la rivière va être morte, le fleuve sera mort. Et on ne dépend pas beaucoup d'argent public pour faire ça. On court dans la planète entière, on trouve des ressources pour ça. Les grands problèmes écologiques de Bolsonaro, c'est l'Amazonie. Alors. Ça, c'est le problème majeur, n'est-ce pas? Parce que lui promet une ouverture de l'Amazonie au agro-business. Mais l'agro-business, je me demande s'il veut vraiment, vraiment sérieusement l'Amazonie. Ils ont compris, ils ont les terres les plus fertiles du monde, cette bande de terres qui va de l'ouest brésilien, qui descend au sud du Brésil jusqu'en Argentine. La terre est exceptionnelle en qualité, mais elle a un avantage. Elle a une précipitation garantie, régulière, qui vient de l'Amazonie. Une fois qu'on a détruit l'Amazonie, c'est fini.
Vous pensez que Bolsonaro veut détruire l'Amazonie? Vous diriez les choses aussi
non,
simplement
que
ça?
Non, je ne crois pas qu'il a promis l'ouverture de l'Amazonie aux agro-affaires. Mais la plus grande contrainte qu'il aura, ce n'est pas même l'agro-affaire, l'agro-business. Ça sera l'armée. L'armée est contre toucher en Amazonie. C'est l'armée qui a créé la FUNAI, la Fondation Nationale des Indiens. L'armée, c'est la plus grande institution présente en Amazonie. Et je connais un certain nombre de jeunes généraux qui sont à la commande. Ils ne sont pas pour la destruction de l'Amazonie. Pas du tout. Ils ne sont pas pour toucher à l'Amazonie.
D'accord. Donc
ils sont
contre toucher à l'Amazonie. Vous qui avez, Sébastien Salgado, fui la dictature militaire à la fin des années 60, aujourd'hui, vous espérez que ce soit l'armée qui soit le réel contre-pouvoir au pouvoir?
Parce que ce n'est plus la même armée, hein. Aujourd'hui, l'armée brésilienne, c'est une armée comme l'armée française. C'est une armée technique, une armée qui participe dans des missions internationales avec l'ONU. C'est
différent. Armée moderne.
Une armée moderne. Mm. Ce n'est pas une armée golpiste d'une république banane. Ça a changé.
Mm. Merci beaucoup. Merci Sébastien Salgado. Je précise pour tous ceux très nombreux qui aiment vos photos qu'une exposition sur les droits de l'homme dans le monde s'ouvrira le 8 décembre prochain au Musée de l'Homme à Paris avec vos photos. Merci d'avoir été avec nous et de nous avoir parlé de votre pays natal ce matin. Merci.
Merci beaucoup.
Et merci à vous Léa.